Bienvenue à la 7e édition du Festival Plein Écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook qui se déroule du 18 au 29 janvier 2023. Ariane Roy-Poirier au micro, très heureuse d'animer les conversations avec nos invités. N'oubliez pas de regarder les films du jour sur notre page Facebook ou notre site web avant votre écoute. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture et CISM, que nous remercions chaleureusement de leur soutien. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Plein Écran. Aujourd'hui, on a la chance de discuter des films du jour 7. Donc, des films qu'il faut absolument attraper, bien sûr. Et on a avec nous des invités, c'est ça l'idée. On a Jacob Kayat pour In Fitu. Salut Jacob.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, je suis tellement heureuse de vous voir ici. C'est trop excitant de le faire ça en personne. Ça fait quelques années qu'on le faisait par Zoom. Et là, on est heureux de vous voir. On a Gabriel, alors Gagnon pour Skitou. Salut Gab, c'est très fun. Et Salomé Villeneuve, finalement, qui est là pour parler de Troie.
Donc, bonjour.
Allô, Salomé. Merci d'être là. On va faire ça très convivial. J'aimerais ça vraiment vous entendre sur les films. Puis on va commencer avec ton film, Jacob, avec In Fitu.
Oui.
Qui est un peu, moi j'aime bien le dire, le film d'horreur de notre édition 7. Un film qui a fait quand même beaucoup réagir le comité de sélection.
Ah oui.
Qui a été un gros coup de cœur, mais aussi qu'il y a eu des questions, genre, peux-tu mettre ça sur Facebook? C'est quand même pas doux.
Ouais.
J'aimerais ça quand même que tu commences par le pitch, justement, du film, qu'on parte avec ça.
Écoute, si je peux résumer, un drame familial, comme on les aime, un drame familial où il y a beaucoup de jalousie, puis une fin qui fait lever le poil sur les bras.
Ouais, hein, un petit peu terrifiante.
Ouais, ouais.
C'est un bon résumé, c'est un film qui est quand même très court, on entend,
oui,
on est dans
oui,
l'efficacité,
vraiment,
là,
vraiment.
Ici. Puis, ben, j'aimerais ça t'entendre déjà, parce que, bon, c'est ton film de deuxième année à l'UQAM, c'est
ouais.
un film étudiant. Nous,
ouais.
on adore intégrer les films étudiants vraiment dans notre compète, puis dans la programmation.
Ce qui est vraiment
régulière.
Génial.
Ben,
c'est
on trouve ça excitant,
cool.
parce que pour nous, je veux dire, un bon film, c'est un bon film, hein, peu importe là, d'où il vient. Fait que nous, tu sais, documentaire, fiction, animation, film étudiant, t'sais, tout est vraiment réuni pour faire une offre le plus équilibrée possible aussi, puis faire voir la diversité et la richesse du cinéma québécois. C'est pas mal. Là, je fais mon pitch plein écran, mais c'est ça, tu sais. C'est vraiment ça l'idée. Mais quand même, c'est une proposition que je trouve extrêmement intéressante. On fait pas énormément de cinéma de genre mm-hmm. au Québec. Souvent, on en voudrait plus, justement, parce qu'il y a des adeptes, ça, c'est sûr, qui sont là. Comment t'es venue l'idée de faire cette histoire-là? C'est quoi l'étincelle pour raconter ce drame familial, comme tu le dis?
Mais c'est une drôle de question, parce que même moi, je me la pose beaucoup.
J'ai
la misère, on dirait, à cerner c'est quand est-ce que cette idée-là m'est venue. Mais je pense que... Moi, je me rappelle, on a fait ce film-là. On l'a tourné en octobre 2021, je me trompe pas. Puis l'idée m'est venue en décembre 2020. On était en COVID. Tu sais, il y avait personne qui se parlait. On était tous chacune chez soi. Puis j'ai eu un flash d'une image d'un enfant dans un bain. Puis je me suis dit... Bon, c'est peut-être weird, mais c'est ça qui m'a Puis... Cette image-là, c'était la dernière image du film qu'on peut voir. Il se retournait vers moi, il me regardait, puis j'étais comme, c'est bien bizarre, pourquoi j'ai cette image-là? Puis c'est vraiment resté. Puis d'habitude, quand une image reste, mm-hmm. c'est parce qu'il faut l'exploiter.
Il y a quelque chose là,
c'est
ouais.
ça. Fait que j'ai comme construit une espèce de squelette avec ça, à partir de cette image-là. Puis comme donner la voix
fascinant.
À cet enfant-là dans ma tête, ouais. C'est comme ça que ça s'est fait.
J'adore ça, c'est vraiment une bonne origin story. Puis justement, ben, ce plan final-là, je le trouve absolument magnifique. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit un regard caméra au cinéma, là, on s'entend,
non.
mais il y a quelque chose d'assez troublant quand même dans ça. Puis tu sais, justement, ça, c'était l'image que tu avais initialement, cet enfant-là te regardait, en fait.
Oui, vraiment.
Ah,
vraiment.
C'est vraiment intéressant. Puis,
vraiment.
Mais comment c'est venu ce qui vient avant? Parce que tu avais cette image-là, mais après,
ouais.
comme... Comment
c'est l'expérience de t'as pas de jumeaux, t'as pas de...
Je vais raconter un truc qui en tout cas, je sais pas. Okay. Ouais, je vais le dire.
Vas-y, mais c'est,
ma voisine, parce que moi, je viens de Gatineau, puis avant de déménager à Montréal, j'habitais là-bas. Et j'avais une voisine qui avait un mari qui est décédé. On l'adorait vraiment, là. C'était nos voisins depuis très, 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 très longtemps.
Mm.
Et cet homme-là avait un jumeau qui venait souvent, puis il a continué à venir après le décès de notre voisin. Fait que c'est vraiment spécial de continuer à voir une personne qui était
ouais.
décédée, puis c'est vraiment identique, là, qui continue à venir chez nous.
Okay.
Et pour faire histoire courte, elle est... Je sais pas, c'est même pas mon histoire, mais elle est tombée en amour avec le jumeau de son défunt mari.
Ouais.
Donc, il est emménagé...
Mais là, t'as un autre film entre les mains.
Oui, ouais, vraiment, il y a quelque chose à faire là, mais c'est, ça me fascinait. J'étais comme, mais tout d'un coup, ils l'ont tué. Puis, en tout cas, là, je fabulais, mais j'étais comme, il y a vraiment quelque chose à faire avec les histoires de jumeaux, de l'identité, de la jalousie. Puis c'est des thèmes qui ça fait longtemps qu'ils sont en moi. L'identité, c'est vraiment intrinsèque à ma démarche, je pense. Fait que j'avais vraiment envie d'exploiter ça. Mm-hmm. Puis je pense que l'idée m'est venue de là un peu. Il y a eu des histoires d'identité, comment on se voit par rapport à nous-mêmes, des fois. En tout cas, bref, il y a plein d'affaires qui se sont mélangées, je pense, qui a fait un peu un melting pot de ce film-là. Ouais, voilà.
C'est tellement intéressant. Ouais. Tu sais, tu parles d'identité, mais ton film précédent, qui était un documentaire, Gédo.
Oui.
Tu sais, vraiment, c'est complètement dans l'identité. Là.
Oui, vraiment. Vraiment.
C'est cool quand même que la démarche est extrêmement différente, on s'entend.
Complètement.
Mais qu'on se retrouve vraiment dans une réflexion sur les mêmes sujets, en fait, là, habité par plein d'autres choses.
Parce qu'il y a cet aspect-là de, tu sais, bon, je viens de Gatineau, je l'ai dit, mais je l'aurais dit, j'en suis très fier, mais je viens de Gatineau. Là, j'ai déménagé à Montréal, ça va faire 3 ans bientôt que j'habite ici. Ma famille, ma mère est libanaise, j'ai un côté de ma famille qui est immigrant. J'ai comme un bagage culturel qui se mélange, qui se marie entre deux cultures. Puis j'ai grandi vraiment dans un milieu très québéco-libanais, là, si on peut le dire comme ça. Et en partant de Gatineau, en venant ici, ma famille est restée derrière. Puis il y a tout ce concept-là de l'identité qui s'effrite un peu avec le temps, la perte des valeurs, la perte de la langue aussi. De moins en moins, déjà, je parle pas bien arabe, mais je suis en train de le perdre complètement, cet arabe-là. J'oublie les réflexes. Je vois plus ma famille. Il y a comme une chaîne de transmission qui s'est comme brisée un peu. Fait qu'il y a, c'est vraiment... Puis je me dis, pour les prochains, s'il y en a, on se croise les doigts. Mais s'il y en a d'autres, écoute, c'est sûr, ça va revenir. Je pense que c'est la chose que j'ai à dire. C'est là-dessus. Voilà.
Ouais. Ben, c'est beau, tu l'as trouvé, oui.
Oui, c'est cool. Hein?
C'est vraiment cool. Mais puis, j'aimerais ça quand même que tu parles de casting, là, parce que des films, on en reparlera aussi avec Salomé, mais des films avec des enfants, moi, je suis toujours fascinée par le casting. Puis là, tu as des jumeaux à trouver, c'est comme pas facile pantoute.
Ils sont bons, hein? C'est comme, ils sont très naturels. Ils sont
vraiment
très naturels.
Mais ça a été un add-on, là. C'était vraiment. Écoute, on a commencé ce film-là, tu sais, dans le cadre d'un film étudiant. Souvent, il y a des barèmes à respecter puis des règles très précises. Nous autres, ça doit se faire en studio. Donc, c'est un film qui a été construit en studio.
Okay,
filmé en lock. Ça a été vraiment pensé, créé. Fallait que on... Ben, évidemment, vu que c'est en studio...
Tout le décor est créé.
Tout est créé de A à Z, oui. Ouais. Qui est aussi, d'ailleurs, tout notre budget. C'est vraiment juste... Tout a été dans le décor.
C'est sûr.
Fait que en tout cas, c'était en studio. Il fallait qu'on ait 2 jours de tournage max. Et montage, démontage. En tout bref, 3 jours et demi, disons. Fait que c'était des contraintes vraiment très précises. Puis on avait justement ce casting-là. Moi, dans ma tête, j'étais comme, il faut des jumeaux parce que c'est ça la base du film. Mm-hmm. Puis on a fait des recherches, des démarches. On se faisait dire non, désolé. On commençait la session en septembre, puis on tournait 1er octobre.
Oh mon Dieu.
Fait qu'on a eu, je pense, 1 mois pour faire toute la pré-prod. Puis ça a été l'enfer. Et trouver des jumeaux, on s'est fait dire non, ils ont la COVID. Une semaine à pas avoir de jumeaux. J'ai rappelé une semaine après les mêmes jumeaux qui sont Michael et Zachary. Puis la mère a dit, finalement, ils sont guéris.
Ah.
Là, j'ai dit, on les veut, venez la semaine prochaine.
C'était le premier choix. Faire.
Oui, vraiment. Puis on les a eus parce que la vie a bien fait les choses.
Oui, hein?
Ouais, vraiment.
Mais moi, une question m'est venue, complètement technique, là. Puis c'est le genre de détails, moi, qui m'obsède quand je regarde des films comme le tien, mais tu tournes avec des enfants, déjà, c'est un challenge, dans un bain.
Mm-hmm.
Tu sais, je me dis, c'était quoi ton horaire, là, parce qu'ils ont-tu froid? Est-ce qu'ils ratatinent? Est-ce que...
En plus,
tu vis en studio, fait que t'as peut-être pas, même pas le luxe de mettre un peu d'eau chaude pour...
ça a été
pour comme... Dis-moi tout.
Ben, ça, c'est des drôles d'anecdotes. On avait le studio, puis évidemment, ben, dans le studio à l'UQAM...
Mais t'as-tu dit que ça se passe dans un bain?
Ça se passe dans un bain.
Spoiler. Tout le film se passe dans le bain, là. Tout le film.
Tout.
C'est un film de bain.
Vraiment. Fait que les enfants ont passé beaucoup de temps dans le bain, mais ça a été une espèce... Parce qu'il n'y a pas de lavabo dans le studio, donc il a fallu là, qu'on aille dans les loges qui sont un petit 2 minutes de marche à l'extérieur du studio, qu'on remplisse des bacs d'eau, parce que ce bain-là, c'est pas un vrai bain, là, c'est un bain scellé de location, là, qu'on a rempli des bacs d'eau chaude à travers le lavabo du CCM. On a transvidé cette eau-là. On avait des bouilloires aussi qu'on, qu'on faisait bouillir pour remplir, pour réchauffer l'eau. On avait de l'espèce de lait à la lavande qu'on mettait pour l'odeur, pour aussi rendre l'eau plus trouble. Puis on les sortait. Souvent, on avait une pompe, on vidait le bain. On remplissait des fois en certaines prises. Fait qu'on était vraiment alerte de « Est-ce que t'as froid? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? » Je vais vous avouer que la première journée, ils ont passé un bon temps dans la piscine. C'était assez long, mais la deuxième, on a vraiment plus écourté leur temps dans le bain. Mais c'était chaud. C'était chaud, je confirme.
Mais est-ce qu'ils chialaient un peu? Est-ce qu'ils...
Il y avait du fun. Tellement de fun. Là. Des fois, on leur demandait, voulez-vous sortir? La prochaine prise, dans comme 10-15 minutes. Puis ils voulaient pas. Ils voulaient rester dans le bain à jouer. Fait que, ça, c'est... Au moins, il y avait du fun.
T'as été chanceux, ouais.
Ben, je suis curieux de savoir, toi, de ton côté, comment ça s'est passé, parce que nous autres, c'était très le fun.
Je sais pas, peut-être qu'on...
Ouais, ben, c'est sûr qu'on va y revenir, parce que je veux dire, c'est...
Je vais pas voler.
On laisse la question suspense.
on crée un petit peu de suspense pour les gens qui nous écoutent. Restez avec nous. Mais en fait, c'est tellement cool, parce que justement, c'est vraiment abordé comme un jeu aussi dans le film, avant que ça vire très mal.
Oui, vraiment.
Fait que cet esprit-là de jeu, il est super important aussi là, dans ce qu'ils font, mais aussi... Quand même, il est excellent, là, celui qui survit, là, si je peux me permettre. Là.
J'ai une anecdote géniale par rapport à ça. Y avait Michael et Zachary, qui sont nos deux amis très jeunes qui se ressemblent. Et dans le fond, les gars, on les mettait ensemble, puis il y avait bien de la misère à rester concentré parce qu'ils se faisaient décrocher tout le temps.
Ben oui.
On faisait une prise, puis là, je voyais que, mettons, dans le visage de Michael, il arrêtait pas de sourire parce qu'il regardait son frère. On entend gros plan sur lui. Je pense que c'est le deuxième plan du film. Gros moment de faut qu'il y ait de la jalousie, faut qu'il soit nerd, puis il arrêtait pas de sourire. Diane-Marie le faisait rire parce qu'il l'a regardé, puis tout le faisait rire. Fait qu'on a fini par tourner Diane-Marie de dos. Zachary, son frère, on l'a retourné de dos. Fait qu'il a fini par jouer face à personne.
Oh, wow.
Parce que là, il n'y avait plus rien pour le faire rire. Puis, m'emmener pour la scène du cri ou de certaines scènes plus intenses, il était vraiment. Il y avait de la misère à reach le point. Puis, je pense que l'ambiance sur le plateau était très fébrile. On était en fin de journée, je pense. Puis, ce qu'on a fait. À un moment donné, son frère, il le regarde puis il dit « Mais non, Mick, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. » Puis il l'a fait.
Ah, oh, c'est merveilleux.
Puis là, je l'ai regardé puis j'ai dit « Voulez-vous qu'on
switch? »
Fait que dans le film, il y a certaines scènes où ses jumeaux sont littéralement inversés. Puis c'est pas le même qui joue.
Ah, c'est tellement méta.
C'est vraiment méta. Oh. C'est vraiment bizarre, mais il y a vraiment des scènes où, puis ça se voit pas, là, mais c'est pas le même enfant.
J'ai eu la réflexion de me dire, j'ai l'impression que c'est le même enfant. Tu sais, tu m'aurais dit, c'est le même enfant dupliqué, parce que la ressemblance est tellement...
C'est fou,
On y a pensé faire ça. On n'a pas le budget.
Ça prenait vraiment des vrais jumeaux. Mais c'est incroyable.
Ouais.
Moi, je trouve vraiment que le film est extrêmement efficace. Puis c'est fou de dire que c'est fait en studio parce que, comme moi, je m'étais fait une note, c'est la plus belle salle de bain au monde. Je la trouve tellement belle, la salle de bain que vous avez faite.
C'est une salle de bain inspirée de Gaudi.
Oh, wow! Ouais. Ben, ça peut bien être beau.
Vraiment. J'avais eu un cours de design de l'environnement en première année. Puis.
C'était resté.
Oui, vraiment. J'étais comme, je veux cette salle de bain-là. Non.
Ah, j'adore ça. Ouais. Hey, ben là, on va s'en aller vraiment complètement ailleurs avec Sikito.
Je peux-tu, attends.
Oui, vas-y.
Parce qu'on a parlé de plein d'affaires, mais on n'a pas parlé de la scène où est-ce que, dans le fond, le frère tue l'autre frère.
Ouais.
On prend deux minutes de mon temps, ça me dérange
pas. Non, mais vas-y.
On s'entend que Mané, c'est un... Moi, j'ai deux enfants, j'ai deux petits gars, puis ils jouent tout le temps ensemble. Tu me parles, ils se font rire dans le bain.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Mais en fait, c'est ce moment-là, pour toi, qu'est-ce qu'il dit? Du jeune qui tue l'autre.
Pour moi, c'est le climax de ce personnage-là. C'est le moment où il décide qu'il y en a assez, que c'est terminé.
Qu'il se trompe, que les gens se trompent entre un et l'autre.
Mais je pense que moi, comment je l'ai vu, c'est que cet enfant-là, toute sa vie, probablement, s'est senti de côté. T'sais, au début, c'est la grand-mère qui lave l'autre, puis elle lui passe le savon, il doit se laver lui-même.
Dans l'ombre de son frère.
Vraiment. Ouais. Mais tu sais, c'est anodin parce que clairement que la grand-mère a toutes les bonnes intentions du monde puis que c'est pas ça le but. Puis j'imagine que toute sa vie, ces événements-là se sont répétés et accumulés, mais ça a jamais été contre lui. Il doit penser que le monde est contre lui parce qu'il vit dans l'ombre de son frère, justement. Mm-hmm. Il doit être tanné, justement, de toujours partager son identité à deux. Puis c'est le moment où il se dit, ben je vais devenir mon frère. Fait que pour devenir son frère, pour lui, la seule solution pour devenir quelqu'un d'autre, ben, c'est de tuer, c'est d'éliminer l'autre partie de lui-même. En fait, c'est comme son identité divisée en deux. C'est vraiment... Ouais. C'est très méta. Mais pour moi, c'est ça. C'est la fin. C'est le début d'une nouvelle vie, littéralement. Parce qu'il va continuer sa vie sous le nom de son frère. Mm-hmm. Il échange le bracelet, il devient quelqu'un d'autre.
Ben, il y a plein de beaux détails qui rendent la communication. C'est là super efficace, en fait. C'est ça qui
ouais,
est cool.
Le petit bracelet,
c'est des réussites de ton film, c'est ça, je trouve.
C'est fin. Merci.
Puis, je rebondirais rapidement là-dessus. En fait, je me demandais comment t'expliques aux enfants. Genre, pour moi, c'est toujours quelque chose de fascinant. Je veux dire, t'écris un film, puis ça fonctionne et tout ça, mais quand t'arrives devant tes acteurs, puis que c'est des enfants, comment tu leur expliques que un va tuer l'autre?
Une question que je vais récupérer pour ton film.
Mais c'est ça, il y a comme des thématiques qui rebondissent, mais... Vraiment. Mais tu sais, c'est ça, je suis d'accord. T'écris, t'as une idée en tête, c'est génial, t'es comme, wow, on a un film. Puis t'arrives devant des enfants, ultimement, c'est des humains, c'est des petits poux qui ont jamais pensé à ça. Fait que, tu sais, nous autres, on l'a abordé vraiment comme si c'était un jeu. C'était vraiment en mode essayer de préserver la candeur des enfants par rapport à ça aussi. Puis c'est vraiment, tu sais, OK, là, vous avez du fun dans le bain, faut que tu le gardes en dessous de l'eau, puis tu sais, c'était dès qu'il n'y avait plus d'air, tu lèves ta main, on arrête. Mm-hmm. Fait que c'était en mode jeu, tu sais, c'était très découpé cette scène-là. La scène d'Anouard est hyper découpée. Mm-hmm. Les scènes où il est plus dans sa tête, tu sais, on faisait des exercices avant de rentrer, mettons, pas sur le plateau, on était déjà sur le plateau, mais avant de faire la prise, on écartait l'équipe, puis j'étais comme, OK, on va prendre un moment ensemble. Puis là, on faisait des exercices de joie, tristesse, fâché. Puis là, on déloussait les muscles de son visage tranquillement pour qu'il se laisse juste au neutre. Puis que j'étais comme, pense à quelque chose de... Tu sais, on jouait là-dessus, puis ça a fonctionné au final. Mm-hmm. Mais c'était toujours dans l'idée de préserver un peu la candeur des enfants par rapport à ça, parce que le but, c'est pas de les traumatiser.
Non. Ouais, c'est ça. Tu gardais ça comme dans le concret de ce qui se passe et pas dans ce que ça veut dire.
Non, je donnais pas un background de genre, là, ça fait 5 ans qu'ils te mettent dessus. Tu sais, j'étais comme, là, il faut pas qu'ils ramènent ça chez eux toujours.
Ouais, en plus, que c'est des jumeaux, là, tu veux pas planter cette graine-là.
C'est ça. C'était comme ça, ouais. Mais on va en reparler à ton film.
Oui, parce que c'est moi, ça me fascine, le tournage avec les enfants. C'est trop, trop intéressant. Mais il y a d'autres défis là, dans Sikitu, on va se le dire, Gabriel, quand même. Déjà, de tourner dans une langue étrangère, puis tout. Commence par le pitch du film, là, puis on va se lancer dans les questions.
Je vais faire ça rapidement. J'ai investi mon temps dans mais, le pitch du film, je veux dire, grosso modo, l'histoire, c'est un jeune qui grandit dans son village, à Iwuivik, qui est le village le plus au nord du Québec. Puis c'est un jeune Inuit. Et il trippe sur le hip-hop, puis il trippe sur le rap. Et il y a un idole qui s'appelle Richie Murdoch, et ça commence à l'obséder. Puis en parallèle, ben, son père essaie d'avoir des interactions, puis faire des activités avec lui, comme la chasse, des trucs comme ça. Puis évidemment, il y a une espèce de querelle entre les deux. Puis la réaction du jeune face à l'ensemble de sa vie, c'est de prendre un peu ce qui est le plus précieux pour son père, qui est précieux parce que ça lui donne accès au territoire, ça lui donne accès à la chasse, ça lui donne accès à ce qui reste de leur mode de vie traditionnel, qui est donc qui s'attaque au skidoo de la famille, puis il va finir par le détruire par rage adolescente.
Ouais.
C'est un peu ça, grosso modo, notre histoire.
Ouais. Puis c'est un film qui je trouve extrêmement surprenant quand même. Tu sais, tu t'attends pas à te faire raconter cette histoire-là. Puis je trouve la symbolique super forte, justement, cette idée-là de mettre ça autour du skidoo, puis ça fait des images vraiment super fortes. Mais initialement, j'aimerais quand même ça que tu me dises pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire-là dans ce territoire-là, puis tout, tu sais.
Bien, j'ai la chance de travailler en documentaire dans ma vie, tu sais. Puis j'étais à un point je commençais comme documentariste, puis je suis allé faire un genre de portrait de région pour une série documentaire qui m'a amené à Iwuivik.
OK.
Puis longue histoire courte, c'est qu'à un moment donné, je faisais une entrevue devant une aréna, puis les jeunes, avec un prof, tu sais, qui a un programme de hockey, machin, puis il y avait un jeune qui, au même moment, rentrait dans l'aréna. Puis c'est un jeune assez cool, là, que je connaissais un petit peu. Puis le prof, il arrête l'entrevue, puis il dit, « Non, tu peux pas rentrer, là. Vous avez saccagé l'aréna hier soir. Tu rentres pas, puis tu t'en vas. » Puis le petit gars débiné, puis effectivement, il y avait eu du vandalisme la veille. Puis c'était je pense que le soir même, je me promenais dans les chemins d'Iwuivik, puis j'ai croisé un jeune. Puis tout le monde te parle anglais là-bas, ou Inuktitut, tu sais.
Oui.
Puis là, j'entendais un jeune rapper dans la rue, puis il rappait du Loco Lacaz. En français.
Wow.
Comme, là, j'étais comme... Tu rappes, toi. Puis là, il rappait plein d'affaires. Puis il me montrait même un vidéo, tu sais, le vidéoclip qu'on voit dans le film, je pourrais vous le montrer, là, mais le vidéoclip qu'on voit dans le film, il est presque plan par plan inspiré vidéoclip de ce jeune-là qui avait fait une toune d'hip-hop. Fait que je suis parti avec ça, puis à cette époque-là, je faisais encore beaucoup de vidéoclips. Mon background, c'est un peu, c'est étonnant, le vidéoclip, documentaire, mais j'étais attaché encore une fois à ce format-là, puis avec les scénaristes avec qui j'ai travaillé, Éric Camalaboulian, puis Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon, on avait le goût de travailler ensemble. Ils m'ont un peu... ils m'ont dit, hey, let's go, là, faut que tu fasses un film. Fait qu'on a comme. Fait que j'ai dit, man, moi, je viens de vivre ça. Faisons-le.
On parle de ça, ben oui.
Puis après ça, ben, ça, c'est il y a 10 ans.
Ouais.
Ça, c'est une autre couche qu'on.
C'est ça.
Mais c'est il y a 10 ans. Fait que bref, le film s'est fait comme ça. Là.
C'est fou. Puis quand même, parce que toi, t'avais eu la chance d'aller là, d'être en contact avec eux. Qu'est-ce qu'il y en est de Éric et Jean-Cy? Est-ce qu'ils ont un peu accès à la culture ou ils ont fait ça?
Mais c'est ça. Ça, c'est le point un peu particulier de ce projet-là. Je me souviens des premières versions du scénario qu'ils m'envoyaient. Ouais. C'était vraiment... C'en était drôle parce qu'ils m'envoyaient... Moi, la fameuse scène, c'est genre une engueulade dans un salon. Puis là, ça finissait avec... le père s'en va dans le sous-sol chercher des bûches pour mettre dans le poêle. Là, j'étais comme les boys... Il n'y a pas de bûche, il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de sous-sol.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'arbre. Il y a une
déconnexion. Là.
Fait que, tu sais, il a fallu qu'on fasse un genre de d'édition constante par rapport à ça.
Ouais.
Je pense qu'ils ont fait une bonne recherche, puis moi, je leur fournissais le plus d'informations. Moi, j'étais allé quelques fois. Quand moi, j'ai eu le scénario, je l'ai fait lire à des gens là-bas pour m'assurer que tout soit un peu d'équerre avec la situation. Puis j'ouvre la porte tout de suite avec le fait que à l'origine, il n'y a pas d'Inuit dans ce projet-là. C'est l'éléphant dans la pièce de ce projet-là. Mm-hmm. Ça a été filmé, produit et filmé il y a 10 ans. On était vraiment loin des considérations d'aujourd'hui par rapport à ça.
Complètement.
Mais tout ça a été fait quand même naturellement avec un grand soin de respecter les sensibilités qu'il y avait dans le scénario. Mais oui, avec le recul, c'est bien particulier parce que même le scénario est écrit en français.
Ouais.
On n'a pas trouvé d'Inuit qui traduisait le français à Nutituk. Fait qu'on l'a traduit en anglais. Après, je suis parti avec le scénario. Je l'ai fait traduire par une madame là-bas qui travaillait pour le gouvernement. Wow. Et en alphabet cyrillique, là, pas cyrillique, ça s'appelle l'IPAI, c'est des petits triangles, des petits cercles.
Ouais.
Et quand j'ai amené ça à des jeunes dans le village, malheureusement, tu parles d'identité qui se perdait des fois, eux autres, ils ont comme un peu perdu là, cette manière d'écrire-là. Mm-hmm. Alors, c'est mon jeune que j'avais trouvé, qui s'appelle Yussi Sala, qui me dit d'une part, parce qu'il y a beaucoup de bagou, là, ce gars-là, puis il y a beaucoup d'attitude. Il dit, il n'y a personne qui écrit, qui parle de même, là, ici. Là. Fait que c'est Yussi qui a tout réécrit le film après.
Wow!
Ah ouais.
Wow.
En réécrivant en lettres, comme nous on connaît, là, je ne sais pas si ça s'appelle, en tout cas, pas les lettres romaines, je sais pas, mais peu importe. pas des lettres romaines, mais bref, il a réécrit tout le scénario, en fait, mais pas le tous scénario, mais il a réadapté tous les dialogues, ce qui rend ce qui les rend plus réalistes.
Ben, complètement, oui.
Puis tu te bases, tu te bases sur quoi quand tu diriges des personnes qui ne parlent pas ta langue? Est-ce que tu te bases sur ton ressenti de l'émotion? Est-ce que tu as quelqu'un à côté de toi? Comment
non,
tu fais ça?
Non. Moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans du Nuktituk.
OK.
J'ai essayé de l'apprendre. J'ai pas réussi. Fait que j'avais peut-être une petite musicalité en tête. Je connaissais le scénario presque par cœur dans la mesure où je savais un peu les fins de mots, à qu'est-ce qui faisait référence et ainsi de suite. Mais non, après ça, on se croisait les doigts puis on se disait ça marche. Mais c'est un beau cadeau parce que en fait le travailler dans une langue étrangère, je sais pas, je pense que je les briefais plus sur leur attitude, leur corps, leur visage. Après ça, les mots, ils sortaient naturellement, là, je pense. Mais on a été mal. On a, en tout cas, c'est une longue histoire, mais il y a eu des scènes qui ont été mal traduites, qui voulaient plus rien dire.
Ouais.
Qu'il a fallu qu'on fasse beaucoup de post-synchro dans certaines scènes parce que justement,
perdu. Là.
Ben, c'est le fun de prendre un ado de 15 ans puis de le faire adapter ton film, mais des fois, l'adolescent de 15 ans, il va peut-être évacuer certaines choses. Mais longue histoire courte, c'est des obstacles à surmonter. Là.
Mais il y a quand même une prise de risque immense dans ce film-là, là, on ne se le cachera pas. Je ne sais pas si vous étiez autant conscient quand vous l'avez fait initialement. Justement.
Mais quand on a reçu le financement, puis on a dit go, là, j'ai fait. Ouais, non, qu'est-ce que t'as fait? Mais surtout quand je me suis comme rendu compte que là, il fallait le mettre en Inuktitut, puis là que j'allais devoir. Puis c'est là où j'ai décidé d'aller prendre des cours d'Inuktitut.
Oui.
Parce que bon, c'est un film qui se passe le printemps dans le Grand Nord. Puis on a reçu le financement, puis il fallait attendre de toute façon presque un an avant d'y retourner. Fait que moi, j'ai pris ce temps-là. J'ai eu des problèmes avec la production. Fait qu'on a attendu une autre année. Fait que peut-être ça m'a aidé à aussi perfectionner mon écriture. Je ne pourrais pas vous parler en écriture. je pourrais vous dire les mots de mon scénario, qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais je ne pourrais pas entretenir une conversation. Là, mais ça a dû aider, là, j'imagine.
Bien, c'est certain.
Mais il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Mais tu sais, je pense que tous les gens autour de la table ici, je pense que une des premières qualités d'un réalisateur, c'est la témérité et le courage et la résilience. Fait qu'à partir du moment où tu décides de faire ça, ben tu es prête à... T'es prête à tout, là, tu sais.
Oui, exact. Allez jusqu'au bout. Puis là, il y a quand même une récompense, en ce sens que le film a un super beau parcours. Il est vraiment bien accueilli. Puis moi, j'étais quand même curieuse à savoir, est-ce qu'il a été vu là-bas, dans le village?
Oui, bien, en fait, oui, il a été vu. J'ai eu la chance on a gagné le prix à regard, le Grand Prix Canada, qui venait avec un chèque de 5 000 $.
Yeah.
Wow!
et devant tout le monde, je me suis commis. J'ai dit, formidable, cet argent-là va me permettre d'aller montrer le film aux gens là-bas qui ne l'avaient pas vu. Certains acteurs les avaient vus, mais pas la communauté.
Mm-hmm.
Et là, je me suis dit, ben je vais m'acheter un billet, puis il va m'en rester un petit peu pour, un autre projet. Puis là, le billet était 4628 pour un aller-retour dans le Grand Nord. Fait que j'étais allé là-bas, puis on a fait une journée de projection à l'école. Là, c'était un peu la fin du COVID là-bas encore. Fait qu'on faisait comme des groupes de 30 personnes max, ou je sais pas trop, 25.
Ça se relayait, là.
Oh, ça se relayait, puis ils venaient. Fait que pendant une journée, on a fait 5-6 projections. Puis les gens ont fini par le voir. Puis là, on avait aussi, ça c'était après le Prends ce cours. Puis là, j'avais amené la coupe du cours. Puis ils connaissaient pas vraiment ça. Ils avaient l'impression que j'arrivais avec la coupe Stanley. Mais ça a été un super beau moment, là, vraiment.
C'est certain.
Puis tu sais, il y en a plein, ça a pris 10 ans à finir le film pour plein de raisons. Fait qu'il y en a plein qui y croyaient plus.
C'est certain.
Puis j'étais encore une fois, je dois le dire, tu sais, le blanc qui venait un peu vivre son trip dans le Grand Nord. Puis là, après ça, eux autres, ils n'ont plus rien. Fait que c'est super important pour moi d'y retourner pour faire ça. Pour moi, dire non, pour vrai.
Il y a de quoi, là.
Croyez-moi, là, ça a été tough à le finir, ce film-là. C'est pour ça. Parce que ils m'écrivaient, puis ils m'ont demandé des nouvelles, puis tout. Bref, c'est un peu
c'est
ça.
C'est tellement beau qu'il ait pu avoir ce moment-là. Puis c'est comme le vrai test aussi de montrer ça à ce public-là. J'imagine que pour toi, ça devait être quand même quelque chose
C'était bien émotif. C'était super émotif. Puis aussi, l'acteur principal aussi, lui, toute sa famille est venue. Je pense que sa famille sont venues 4 fois le voir. Là, ça a été super... super important, puis il y a d'autres gens qui m'ont aidé là-bas, tu sais, qui ont cru au projet, puis qui m'ont aidé à organiser ça, qui étaient bien touchés. Mais en même temps, tu sais, c'est particulier parce que ils n'ont pas la chance d'aller au cinéma beaucoup, ces gens-là. Ils se font des projections à gauche, à droite, mais tu sais, qu'un créateur aille leur voir montrer un film, ils regardent le film, ils n'ont pas beaucoup de réactions. La première projection, c'est drôle parce qu'ils ont regardé le film, ils sont tous levés en même temps, puis ils sont sortis tout de suite. puis là, moi, j'étais comme. Je capotais, mais là, le gars qui m'avait aidé, organiser le truc, il m'a dit « Hey man, ça a vraiment bien été, hein? » Ils ont vraiment aimé ça, je suis capable.
Ah,
tant mieux! Mais en tout cas, tu sais, c'est toujours un peu différent, les vibes là-bas. Là.
Mais ça devient super concret, tu sais, il y a quelque chose de super beau. Ça boucle vraiment bien la boucle de ce film-là, puis pour eux de se voir aussi dans un truc qui est aussi...
Mais j'ai vraiment hâte, sérieusement, j'ai hâte que toutes les espèces de runs de festival se terminent pour que je leur garoche le lien, puis qu'ils puissent le vivre aussi, chacun. J'aimerais ça que les gens des autres communautés le voient. C'est rare qu'il y a des films qui se passent dans leur village, dans leur réalité.
Plein écran, c'est un peu ça. T'sais. Il va quand même être absolument sur Facebook en ligne. On espère qu'il se le partage.
Moi, je pense que ça... Vous regarderez vos stats, il va y avoir de l'action dans l'article.
Hey, ce serait fou, c'est ça la beauté de plein écran pour vrai.
Absolument. Hey, merci d'ailleurs de prendre le film parce qu'eux vont être hyper contents, là, c'est sûr.
Ça nous fait tellement plaisir. Vas-y, Jacob.
Moi, je me demande une chose. Quand tu pitches une motoneige d'une falaise, combien de motoneiges, combien de prix? Comment?
Qu'est-ce
qui
se passe?
OK, je vais faire ça rapidement, mais on a été hyper chanceux. La première version du scénario, on pitchait le skidoo dans l'eau. Okay. Genre au bout d'une plage, tu sais. Fait qu'on se disait, ben, on va peut-être trouver le moyen de l'envoyer, puis de le reculer, puis de le récupérer. Puis tu sais, c'est la banquise là-bas, puis c'est la glace partout. Fait que, tu sais, quand on a commencé à pitcher l'idée, tout le monde était comme, non, ça marche pas, c'est bien trop dangereux. Tu sais, c'est pas comme ça. Pas de plage, là, ça drop, là, puis c'est l'article, là, tu sais. Fait que c'est naïf. Je pense que c'est Yussi qui a dit, pourquoi on le pitche pas en bas d'une montagne, tu sais? Fait que là, j'étais comme... Puis ça donnait vraiment, là, on a trouvé un gars qui avait un skidoo, puis qui avait... C'est même pas une joke, là. Les dieux du cinéma étaient avec nous là-dessus. Il y avait un modèle exactement pareil, même modèle, même année, qui était déjà tombé dans l'eau salée.
Ah, oh, ouais.
Fait qu'il était comme déjà semi-scrap. Fait que là, le gars, il est comme un peu renippé, mais il le gardait pour les pièces, là, genre. Puis, fait qu'on a fait tout le... On l'appelait le picture skidoo, là. On faisait tout le reste des scènes avec le picture skidoo, puis on avait lui en background. Puis quand est venu le temps, ben lui, il a survécu la ride jusqu'en haut de la montagne. Ah. Puis on l'a...
C'était sa fin, sa belle
c'était
fin.
C'était sa fin, puis on avait la chance d'avoir deux caméras. Fait qu'on a fait la prise de derrière l'épaule de UC. Qui, tout est vrai, là, tu sais, ça, puis c'est une prise. Là, fait que lui, il a mis une roche dans le gaz, puis on avait un plan large qui était en bas. Puis
c'est un
one shot. Ouais, one shot. C'est ça, on était chanceux encore une fois. On parlait de risque, là. On a été très chanceux.
C'est
ouais,
fou.
Ouais.
C'est incroyable. Ben écoute, le film, je pense qu'il est vraiment, il récompense tous les efforts parce qu'il est exceptionnel, ce film-là.
Ben, je vous remercie
puis
beaucoup.
On espère qu'il se promène dans l'Arctique, définitivement.
Absolument.
On va revenir aux enfants, Salomé, avec toi. On revient avec trois. Ton premier court-métrage en tant que réalisatrice. Nous, on aime tellement ça aussi, de découvrir des réalisateurs et réalisatrices. C'est trippant. Puis, ben, commence par le pitch aussi. Commence par nous présenter. Puis après ça, on avait déjà des questions en banque. On va se lancer.
C'est bon. Donc, en fait, trois, c'est l'histoire de trois enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans la nature. Puis, ils se retrouvent sur la rive d'un lac. Ils pêchent un poisson. Et puis, quand vient le temps de décider du sort du poisson, mm-hmm. la zizanie s'installe. En fait, les trois enfants, oui, c'est des frères et sœurs. Donc, ouais. La zizanie s'installe entre les trois frères et sœurs.
Ah, j'adore comment tu le décris. Ben, ton film m'a fait énormément penser à un souvenir. Genre, c'est un peu l'image que j'avais en l'écoutant. C'est comme si on ouvre une petite porte sur un souvenir ou c'est vraiment un moment, tu sais, puis très... très imprégné de l'enfance, justement, parce que tu l'as dit, c'est des enfants laissés à eux-mêmes, il n'y a pas d'adultes, jamais on est dans une espèce d'univers qui leur appartient. Puis j'ai trouvé ça très beau, puis je me demandais justement, toi, est-ce que c'est quelque chose qui vient un peu de ton enfance ou comment ça t'est venu, cette idée-là de raconter ce moment-là?
Oui, ben vraiment, en fait, tu utilises les bons mots. En fait, ce qui s'est passé, la vraie histoire, j'étais... dans des études à Concordia, un programme un peu similaire au... Ben, similaire au tien. Oui. Puis, quand venait le temps... Tu sais, en fait, on partait pour l'été, puis pour la dernière année, ils nous disaient, vous devez revenir au début de l'année avec un scénario à présenter, parce que, tu sais, c'est un système de pitch, on pitch devant un jury qui décide qui fait son film. Puis, bon, comme d'habitude, ben, pas comme d'habitude, je suis assez bonne élève, mais quand même, je me retrouve, genre, une semaine avant le début de l'école... Puis, j'ai pas encore écrit mon film. Faut que j'écrive un film. Puis, je sais, tu sais, j'ai l'impression, ben, il y a peut-être des gens qui savent tout de suite ce qu'ils ont envie de dire, mais j'avais envie de faire quelque chose qui était proche de moi. Puis, je me suis retrouvée, en fait, par hasard, cette journée-là, dans la maison de ma mère. Puis, entourée, comme, de tous les objets qui me rappellent mon enfance. Puis, je crois que. Ça a juste été comme, je me souviens vraiment d'être assise à un bureau, puis que, boum, c'est comme une idée.
Ça t'est apparu.
Ouais, ben je crois que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des choses qui n'étaient pas résolues. Comme dans le lien avec mes frères, qui sont les deux personnes que j'aime le plus au monde, mais que ça a toujours été une fascination pour moi qu'à ce jour et dans l'enfance, encore, de manière encore plus viscérale, je pouvais les aimer et les détester en même temps. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se reproduisait d'une certaine façon dans certaines dynamiques, même à l'âge adulte. Dans, tu sais, les conflits n'ont pas d'âge. Donc, je me demandais, c'était comme pour moi une prémisse très intéressante d'utiliser comme justement le cadre comme de la fraternité et de l'enfance pour voir qu'est-ce qui se passe quand comme le désir ou le besoin viscéral de l'un entre en contradiction directe avec celui de l'autre. Donc, c'était un peu ça comme la prémisse, ouais.
Ouais, on va vraiment dans les émotions, là. C'est un film comme de l'expérience humaine, là, justement, puis à cette échelle-là. Puis, tu sais, j'ai trouvé le film très sensoriel, puis très, justement, dans les détails, très délicat. Tu sais, parce que, tu sais, tu parles de quand même de quelque chose de grand, puis d'universel, de ces conflits-là, puis tout. Mais t'as vraiment trouvé une façon, je trouve, assez fascinante de l'intégrer dans un petit détail, tu sais, qui fait toute l'histoire, tu sais, qu'on n'a pas besoin de plus, en fait. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis, ben, parle-nous un peu de l'univers aussi, parce que, tu sais, comme c'est pas d'adultes, comme on a dit. C'est un chalet, on peut dire, un peu. T'sais, c'est l'été. Il y a quelque chose de tellement sensoriel, justement, dans ça. Toi, est-ce que ça t'a pris du temps de trouver ces lieux-là? Pour que... Parce que j'imagine que tu avais ça très dans ta tête, là, à voir.
Ouais, ben en fait, j'avais vraiment envie que ce soit à l'échelle de l'enfance. Ouais. T'sais, pour moi, quand on est enfant, on vit des émotions qui sont aussi ou même plus intenses, parfois, qu'à l'âge adulte, tout est très... Oui. T'sais, ça part des tripes, puis c'est comme... une question de vie ou de mort. Donc, j'avais envie que, pour moi, ça devait pas être, comment je peux dire, genre, la vie du poisson pour ces enfants-là, c'est comme une vie humaine. Puis moi, je me souviens, puis encore aujourd'hui, tu apporte-moi pas à la pêche. Je suis pas un bon allié. Mais c'est comme... C'était ça un peu l'idée de départ, puis c'est un peu à partir de cette ligne directrice-là que j'ai essayé de construire l'univers du film. Donc, au niveau... comme j'avais envie que les enfants soient un peu... qu'on soit à leur échelle, puis qu'ils soient un peu comme des créatures dans l'environnement de la forêt, des champs, tout ça, puis qu'ils soient intégrés dans ce paysage-là.
Mais, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, là, mais tu sais, moi, il y a une... Parce que je n'ai pas oublié mon idée.
Oui, je
Non, mais parce que j'ai trouvé que, dans ce que tu dis, moi, j'ai beaucoup aimé les cadrages dans ton film, tu sais. C'est comme une immense force, là, ne serait-ce que, tu sais. Puis là, je trouve que, ben je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre ce qui encadre les enfants quand ils se retrouvent dans la nature. Tu sais, il y a un plan magnifique où il y a une petite fille qui court là, dans un truc, tu sais, il y a plein d'arbres, là, tout le monde, vous savez de quel plan je parle. Puis après ça, la manière dont tu filmes l'intérieur du chalet ou de la maison, j'ai l'impression que c'est le même cadre, mais c'est dans deux lieux. Fait que, mais ça, comment tu as travaillé le cadrage? En fait, j'ai l'impression que ça travaille dans le sens dont tu parlais, là.
Ouais, ben en fait, j'ai eu la chance... J'ai l'impression qu'il y a toujours comme des désavantages et des avantages à faire un film sans financement. J'étais... il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film gratuitement et qui étaient là, de leur plein gré juste par passion. Puis mon directeur photo, Fred Gervais, que j'adore, qui est un photographe aussi incroyable. Et moi, on est super proches. Puis on a passé beaucoup de temps sur nos lieux de tournage avant le tournage. Aussi, j'avais l'avantage justement d'avoir choisi des lieux de tournage auxquels j'avais accès. Ouais. Mm-hmm. Et donc ça a été vraiment extraordinaire. Les deux, on a un amour de la photo, de composer une image. Donc, c'était beaucoup... d'aller... on a passé, c'est ça, du temps à vraiment aller sur les lieux, habiter les lieux comme les... C'est tellement cool d'avoir cet espace-là, j'ai l'impression, parce que quand t'es en tournage, moi, personnellement, je deviens comme dans un autre... T'es dans un autre monde, fait que quand t'es plus détendu, en prêt, plus juste de deux choses, personnes... Ouais, exact. Ton regard a une ouverture, peut-être, et tout ça. Puis ensuite aussi, j'adore faire de la recherche visuelle. Donc, puis c'est intéressant au niveau des... Tu sais, au niveau des cadres, dans les cadres, des fois, il y a des choses que tu le dis, puis je dis, c'est vrai que j'aime vraiment ça. Mais c'était pas nécessairement comme réfléchi comme tel. Mais je pense que chaque fois que j'arrivais dans des lieux, je trouve il y a quelque chose qui m'habitait dans ces images-là, à l'intérieur d'images et tout ça. Puis aussi dans, tu sais, tout le cinéma... que j'ai vu auparavant, je crois que c'était des images qui m'interpellaient et tout ça, puis que ça a teinté...
Mais écoute, moi, j'ai vu genre Night of the Hunter, là, je sais pas si...
J'ai pas vu.
T'as pas vu, non? Non. Concordia, moi, j'ai vu ça à Concordia à l'époque. Non, mais c'est... En tout cas, c'est un film où est-ce que t'as des enfants qui sont comme en
vous cabale. Vous savez, ouais, moi, je l'ai vu.
Mais tu sais, t'as des enfants, à un moment donné, qui se sauvent d'un milieu très... très comment je dirais ça, hostile. Il y a comme le chum de leur mère qui veut les tuer littéralement, et dans leur cavale, c'est t'as toujours la relation entre eux et la nature. Tu vois des araignées, tu vois des écureuils,
c'est
des,
vrai qu'on retrouve ça dans
des
ton
oiseaux
film.
Ça m'a fait, ben, parce que je trouve ça très beau de la manière que tu l'as fait, là, le lien entre l'animal, tu sais, puis en tout cas j'ai vu la référence là, mais
je vais le regarder. Merci, j'adore quand il y a des araignées, des oiseaux, tout ça. C'est vrai,
mais ça sent aussi dans ton film tous les petits détails, justement les petits insectes ou genre, tu sais, juste les doigts sales. Je trouvais ça tellement intéressant, ouais, comment t'allais chercher tous ces petits détails là dans la texture. Puis moi, je pense que c'est pour ça aussi que le film m'a autant habité. Puis quand tu parlais de cadrage, ce plan final-là, moi, je le trouve absolument remarquable. Mm-hmm. Il me hante. Puis, tu sais, l'évocation du titre. Moi, je suis vraiment geek dans la vie. Quand le titre est dit dans le film, ça me fait un plaisir immense. Puis là, au lieu de le dire, tu l'as comme représenté visuellement, ton titre. Puis j'étais comme, oh my God. J'étais juste mind blown. Je trouve ça tellement, tellement beau. Est-ce que ton titre, tu l'avais déjà, puis c'est une image que tu voulais explorer ou c'est venu après?
En fait, c'est drôle, non. C'est plutôt venu... je sais pas si c'est venu avant ou après le tournage. Ça fait 2 ans, ma mémoire est un peu défaillante. Mais les premières versions du scénario, c'était comme d'autres idées.
Titre de travail.
Et tout ça, mais je sens... Tu sais, je sais pas si... probablement que vous le vivez aussi quand un titre... Des fois, ton idée est super forte quand tu veux écrire ton scénario, mais t'as pas tout de suite le coup de cœur de l'idée du titre. Mm-hmm. Fait que c'est toujours insatisfaisant. Tu remets tes versions, tu vois le titre, puis t'es comme...
Non, c'est pas là encore.
Puis c'est comme si, tout d'un coup... Ouais, c'est comme l'idée m'est venue. J'étais comme 3, mais je voulais absolument pas que ce soit le chiffre. J'étais comme ces 3 barres. Puis j'aimais l'idée qu'on ait justement ces 3 enfants-là, mm-hmm. puis qui forment un tout aussi, d'une certaine manière. Mm-hmm. Donc... Ouais,
c'est magnifique. Mais revenons aux enfants. Jacob, tu avais une question quand même sur le travail avec les jeunes. C'est remarquable.
Toi, comment tu les as dirigés pour que ce soit... Parce que tu sais, il y a quand même de l'émotion, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a comme plein de trucs qui se mélangent, puis tu en avais 3 à diriger avec lesquels tu travaillais. Comment toi, tu as fait pour avoir ce rendu-là à l'écran?
Ben, en fait... Comme premièrement, je vais leur lancer des fleurs à eux parce qu'ils ont été, tu sais, ils étaient vraiment très impressionnants, très disciplinés, très volontaires.
Ils sont géniaux, ils sont vraiment bons à l'écran.
Mais c'est gentil. Je leur ferai le message. J'écoute le podcast. Mais puis aussi, ensuite, ça a beaucoup aidé de pouvoir faire des auditions les uns avec les autres. On était quand même pressés dans le temps, donc j'ai pas eu autant de temps que j'aurais aimé en avoir parce que, en fait, c'était pas compliqué. C'est qu'on on finissait la pré-prod à la fin de l'été, puis c'était à un moment donné, si tu veux lancer des enfants dans l'eau, des trucs comme ça, t'attends pas mi-septembre parce que ça fonctionnera plus. mais ça a été aussi, en fait, le fait qu'il y en avait 3, aussi quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que c'est d'avoir fait appel à une coach d'acteur. Donc, Ève Lemieux, c'était vraiment... incroyable d'avoir comme un allié qui est présent tout le temps sur le plateau, puis qui, elle, était actrice, est comédienne et a été comédienne depuis l'enfance. Donc, c'était super précieux parce qu'elle avait cette sagesse-là, cette expérience-là de savoir quel langage tu parles comme enfant, tu sais, dans un monde d'adultes. En tout cas, tu sais, c'est... Puis, non, c'est ça, je crois que, tu sais, c'est la magie de la vie, d'essayer de comment je pourrais dire, de... Je crois que j'étais beaucoup, beaucoup dans leur monde. Ce qui était particulier, c'est que des fois, j'avais l'impression que ça pouvait me nuire aussi. C'est comme si, pendant la pré-prod du film, j'ai un peu l'impression d'avoir ouvert le grenier de mon enfance, puis que c'était peut-être pas tant une bonne idée que ça, dans le sens où ça m'a plongée dans beaucoup, beaucoup d'émotions, de souvenirs. Puis... fait que ça a été un tournage un peu intense parce que c'est comme si, une fois que j'étais sur le plateau, ben là, je sentais que j'avais besoin d'être une adulte, mais l'adulte en moi revenait pas. Je me sentais comme un enfant de 5 ans qui devait diriger une équipe et j'avais la COVID, je le savais pas.
Oh mon Dieu!
Mais fait que ça a été comme un cocktail. Fait que les enfants ont été incroyables parce qu'ils ont été super présents, super à l'écoute, tu sais, mais...
Mais moi, j'ai une question parce qu'ils se ressemblent beaucoup, tu sais. Puis même, si tu m'avais dit, sont toutes c'est des frères et sœurs, je t'aurais cru. Mais quand vous castez, puis là, ça se prête moins à toi parce que tu étais des jumeaux. Là.
Ouais.
Mais moi, si je castais 3 frères et sœurs, j'aurais tendance à vouloir qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais je pense qu'ils se ressemblaient assez. Mais c'est quoi le niveau de valeur, je te dirais, que tu accordes au casting de « il est vraiment bon, mais il lui ressemble moins » et vice-versa? Est-ce que ça joue ou peut-être ça n'a pas été un enjeu pour toi?
Non,
là?
Pour moi, ça joue. En fait, dans ce cas-là, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu cette situation déchirante où, par exemple, il aurait pu avoir un autre enfant que j'ai « Oh mon Dieu, il est extraordinaire, mais on n'y croira jamais.
»
Donc, je crois qu'on peut remercier les dieux du cinéma pour ça, encore une fois. Puis,
mais si ça avait été le cas, comment tu aurais géré ça?
C'est une bonne question. J'ai...
Qu'est-ce qui était plus important, que tu y crois visuellement ou qu'il soit bon acteur?
J'ai l'impression qu'il y a comme plein d'autres circonstances. Et si tu as d'autres enfants qui vont, qui vont ressembler, t'sais, parce que tu peux adapter l'histoire. Pour moi, c'est juste que le danger, si ça ne ressemble pas du tout, c'est que ça ouvre juste une porte à ce que ça veut dire quelque chose dans l'histoire.
Ah oui, oui.
Parce que le thème de la famille, il disparaît peut-être à ce niveau-là si ce n'est pas une lecture qu'on a du film.
Ouais.
Si les enfants ne se ressemblent pas, tu sais.
Ouais, puis après, des fois, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens dans des versions du montage qui disaient « Ah, mais on sait pas que c'est des frères et sœurs. »
C'est encore, vrai que j'ai jamais dit. Ouais.
Encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui voient le film puis pour qui c'est pas des frères et sœurs. Puis est-ce que c'est si important que ça? Tu sais, dans le sens où c'est la question, c'est de comprendre qu'il y a un amour très fort et une adversité entre les personnages.
Sens, ouais.
Mais ouais, après, c'est une bonne question. Je sais pas si j'y ai répondu, mais... Je crois
tant mieux de ne pas le vivre, parce que ça aurait été, très déchirant.
Ouais, non, c'est clair. Puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de particulier, parce que je sais pas si tu mets les trois enfants dans une pièce, si tu as l'impression qu'ils sont frères et sœurs, mais c'est comme si il y a une magie qui s'opère dans le cinéma, où une fois que c'est mis en scène, c'est comme si...
Oui, il y a quelque chose qui se passe dans le film, définitivement. Puis je pense que, comme tu dis, l'essence est là, même si on n'aurait pas nécessairement compris que c'est des frères et sœurs, mais il y a quelque chose dans la profondeur de leur lien qui évoque ça, je trouve, là, dans comment ils sont l'un avec l'autre, puis dans cette belle conclusion-là, justement, tu sais, qui est comme, je sais pas, qui appelle à la fraternité puis la sororité, ça, c'est certain pour moi, là. J'avoue que moi, j'avais pas de doute, même si c'est pas nommé. J'ai tout de suite été là, vraiment, dans cette histoire de famille-là, surtout parce que des enfants seuls, laissés à eux-mêmes aussi, fait que je pense que le réflexe, c'est de dire c'est des frères et sœurs. Mais je pense que de toute façon, c'est, comme on dit, c'est humain, là, ce qu'ils vivent. Puis ça aurait pu être d'autres liens. Mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement bons. Là. C'est ça qui rend le film. Là. Vous avez été super chanceux. Vous avez eu des incroyables enfants acteurs. C'est toujours fascinant, genre, de voir des enfants jouer. Puis j'aimerais ça vous amener un peu à jaser de courts-métrages en général, justement, parce que là, on a jasé de vos films, puis je pense qu'on aurait pu en dire encore très long quand même. Mais j'aimerais ça vous entendre un peu sur le format lui-même. Tu sais, Gabriel, toi, tu disais que c'est un peu nouveau pour toi, ce format-là. Tu as fait plus du docu, du clip. Pour vous, c'est vos premiers aussi. Là, on est encore dans les premiers balbutiements du court-métrage. Qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ce format-là? Pourquoi vous aimez ce format-là? Qu'est-ce que vous diriez que ça apporte?
Ben, moi, je trouve que c'est un format qui me fait mal.
Ah ouais.
C'est un format qui me fait mal. Je trouve ça difficile de raconter des choses en 10 minutes. Mm-hmm. Tu sais, même ton film en 6, je trouve ça juste en soi. Moi, j'aurais pas le... Enfin, ça m'est jamais venu, tu sais, l'histoire qui se tient en 6 minutes. Puis moi, le mien fait 26 minutes. C'est comme trop long, là. Tu sais, dans le sens, c'est... Puis j'ai eu le... J'ai en plus eu l'idiotie de faire un générique qui finit plus. Fait que, anyway. Mais oui, moi, ma réponse, c'est que je trouve ça difficile. Je trouve ça très, très difficile. Puis en même temps, j'ai pas fait de long métrage. J'ai fait du long métrage documentaire. Puis je sais ce que ça prend aussi pour alimenter une histoire pendant comme une heure et demie.
Ouais.
C'est un format qui est douloureux, je trouve. C'est un format qui est douloureux pour moi.
Mais je comprends. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, mettons, je pense au court-métrage, tu sais, ça a été dit, mettons, le film que j'ai fait a été fait dans un contexte école.
Ouais.
On a des contraintes qu'on doit respecter, donc le temps faisait partie. Tu sais, je veux dire, avec deux jours de tournage, c'est... Mm-hmm. À moins que ce soit un plan séquence, mais ça peut être dur de faire un 15 minutes de film, tu sais, surtout avec des enfants avec plein de prises, mais je comprends ce que tu veux dire dans la mesure où c'est difficile d'être concis, puis de raconter, puis de trouver les bons leviers narratifs pour raconter une histoire en 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Parce que, je sais pas, dans ma tête, pour faire vivre un personnage à l'écran puis pour qu'on s'attache à ce personnage-là, ça prend du temps, tu sais. Je veux dire, dans vie, on...
Mais moi, j'irais plus loin. Des liens. C'est que moi, c'est comme si quand moi, je pense... Si moi, là, j'avais eu ton idée, je sais pas si j'aurais eu la game de la faire, parce que j'aurais eu peur qu'il n'y ait pas eu assez d'événements pour faire avancer l'histoire, pour que les gens restent intéressés à ce que j'ai à leur proposer. Moi, c'est comme... On aurait dit que je vis dans un espèce de pré-FOMO, là, de genre... oh my God! Réduire. Est-ce que je vais être capable de toucher les gens et de les divertir? C'est peut-être mon vieux fond de gars de vidéoclip, là, que tu veux toujours... mais c'est ça qui... Moi, c'est ça qui m'impressionne dans vos propositions, tu sais, c'est d'avoir le cran de se dire, ben non, moi, je vais créer une ambiance qui va garder le monde. Parce que c'est des films dans... Ben, plus le tien que le tien. Là. Mm-hmm. Le tien, c'est une histoire qui est forte, mais le tien, mm-hmm. C'est une ambiance qui est très intrigante, mystérieuse. Puis je pense que moi, comme créateur, je pense que j'oublie que ça se peut aussi. ou du moins, j'ai la difficulté à avoir la confiance de se dire mm-hmm. ça. Ben oui, il va y avoir un super beau plan d'arbre, puis ça va contribuer à l'histoire à sa manière, tu sais.
Ouais, ben j'ai l'impression que ça vient peut-être un peu aussi d'insouciance ou de naïveté des fois, pas dans mon cas, mais ouais, j'ai l'impression.
Tous tes plans d'insectes là,
ouais.
sont super beaux. Ils racontent concrètement rien là, tu sais, mais ils sont précieux dans ton film, tu sais. Puis je sais pas ce quel insecte t'as pris là, qui est comme noir et jaune, là, mais je sais pas si tu l'as capturé ou tu.
Noir et jaune.
Ouais, c'est sur la main là, qui monte.
Ah,
oh,
qui monte. Ah ouais, ben en fait, c'est une autre histoire. C'est parce que ce qui est drôle, c'est que mon frère est en biologie. Okay. Et mon frère, dans la vie, c'est un peu mougli. Fait que c'est comme, tous les matins, il partait attraper comme plein d'araignées.
Ah, c'est vrai?
Okay. On avait tout un casque comme un...
T'avais le choix le matin.
Oui, exactement. Mais ben, j'ai l'impression, pour revenir un peu au court-métrage, dans mon cas, c'est que c'est autant... pour moi, il peut y avoir quelque chose peut-être de libérateur par rapport au long métrage ou de ceux que je vois autour qui sont dans les projets de long métrage. En même temps, c'est comme c'est un engagement majeur ou c'est comme un peu comparer une relation à court terme versus une relation à long terme, dans le sens où des fois j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de cool dans le court métrage parce que c'est un médium qui te permet d'expérimenter, peut-être de casser la gueule, plus de manière plus sécuritaire.
Ouais.
Mais en même temps, moi aussi, je trouve que ça donne des maux de tête d'une certaine manière parce que c'est dans la contrainte de la simplicité. Puis des fois, c'est positif, je pense, mais ça, tu ne peux pas ratisser large, tu ne peux pas avoir plein de comme, sujets. Si c'est vraiment, tu vas aborder une petite parcelle de la réalité.
Ouais.
Puis il faut comme se contraindre un peu. Puis des fois, c'est l'appétit est plus large, donc on a envie de comme toucher à plein de choses, puis créer plein de dynamiques complexes. Mais...
Oui, puis des fois, c'est une erreur de premier court-métrage aussi, là, de mettre trop de choses, puis qu'on se perd un peu là-dedans. Puis c'est clair que comme... Moi, je trouve ça en fait super beau comment vous en parlez, parce que pour moi, ça confirme que c'est vraiment une écriture qui est extrêmement spécifique puis qui est loin d'être facile. T'sais. C'est pas... oui, c'est un laboratoire où on explore un peu plus, mais c'est pas dans l'idée que genre c'est vraiment facile, puis ça, tu te pratiques pour après ça, faire un long, tu sais, il y a quelque chose vraiment, ça a ses propres défis, là, faire un court-métrage, définitivement.
C'est un exercice de concision puis de synthèse qui est super difficile. Puis,
oui.
Tu sais, au final, je veux dire, moi, je me pose la question pour vous aussi, mais je regarde le film que, mettons, In Fait Tout, je le regarde, puis je me dis, est-ce que ce film-là aurait pu vivre plus longtemps?
Mm.
C'est une question, je pense, qui, tu sais, je sais pas si un jour je vais avoir la réponse, parce que je le sais pas.
Mm.
Mais je sais pas pour vous, mais moi, je regarde mon film et je me dis, ça aurait été intéressant peut-être d'explorer plus large, ou d'aller plus loin. Qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Je sais pas. Est-ce que je me serais perdu?
Le cas de ton film, moi, j'étais très intrigué de ce que sera le destin de ce jeune-là qui survit. Là.
Prends une suite.
J'imagine l'ouverture d'un film comme ça. J'ai eu la misère à survivre au visionnement, moi.
Mais il y a une époque où c'était semi-populaire de prendre des courts-métrages qui avaient eu un bon succès puis d'en faire des longs-métrages.
Ouais. C'est vrai.
Et je pense que moi, ce que j'ai souvent comme écho quand j'ai cette réflexion-là, c'est que c'est rarement des bons longs-métrages. C'est pas des longs-métrages qui vont.
Ben, il y a Whiplash quand même.
C'est vrai, t'as raison.
Je joue l'avocat. Vraiment...
Non, mais c'est parce que moi, j'avais en tête un film qui s'appelait un gars qui dormait pas la nuit là, dans un supermarché. Je sais pas si toi, ça dit quelque chose. Mais bon, bref, mais oublie ce que je viens de dire. Mais c'est peut-être un piège, mais t'as raison, Whiplash, c'est super.
Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des exceptions, mais que globalement, tu sais, si ton histoire a été réfléchie pour ça, ça veut pas dire qu'elle est pas intéressante pour aller plus loin, mais il y a, y a une raison pourquoi c'était aussi bon en court-métrage. C'est quand même, pas. C'est vraiment une écriture qui est différente. Je pense que c'est juste ça. C'est nos lettres de respect pour, pour le court-métrage.
Mais là où je te rejoins, par exemple, là, c'est que. Moi, je sais qu'à mon époque, quand... ça paraît pas au micro, mais je suis pas mal plus vieux que vous. Mais je me souviens que c'était le débouché pour un jeune réalisateur qui voulait se casser les dents, c'était les vidéoclips. Puis il y avait une industrie très vivante à Montréal. Il y avait 3 compagnies, on en produisait plein. Ça a complètement disparu. Fait que moi, je pense que le court-métrage a une vocation hyper importante pour les jeunes créateurs d'aujourd'hui, parce que c'est leur refuge pour aller explorer puis faire les choses comme nous, on le faisait dans le temps quand on faisait des vidéoclips, là, tu sais. Fait que je pense que c'est un format qui doit vivre et qui doit prospérer. Là, oui.
Il est tellement vivant. En plus, je trouve que c'est un bon mot pour le décrire. Je trouve ça extrêmement vivant, le court-métrage. Il y a tellement de choses qu'on explore dans ça que je sais pas, ça te permet d'aller partout puis de voyager aussi. T'sais, quand tu vois un programme de court-métrage, tu vois tellement de propositions. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans ça. Nous, on met vos œuvres seules. On les laisse vivre leur vie toute seule. Mais quand même, on avait réfléchi au film ensemble aussi, parce que on peut les visionner dans la même journée. Fait que vous ne pouvez pas... Il y a une réflexion qui se fait. Puis il y a des moods pour chaque film. Il y a vraiment quelque chose de fascinant dans ce travail très précis-là du court-métrage. Est-ce que vous pensez à des titres de court-métrage? Peut-être justement, tu parlais, Salomé, de Whiplash. Est-ce qu'il y a des films, des court-métrages qui soit vous inspirent ou qui vous ont marqué, vous, comme cinéphile ou cinéaste?
Pas définitivement. Mais honnêtement, moi, ce qui me vient en tête, là, c'est La peau sauvage de Ariane Huissaz.
Ouais,
c'est,
j'ai pas vu.
C'est un film là, qui. Je l'ai vu au cégep à Gatineau, en cinéma. Puis quand j'ai vu ce film-là en classe, parce que c'était dans un cours de critique cinématographique. Ouais. Donc, à chaque semaine, on voyait des cours, des longs, on visionnait plein de trucs. Puis quand j'ai vu ce film-là, je me cherchais beaucoup dans ma démarche. Je savais pas ce que je voulais dire. Puis quand j'ai vu vraiment. Et La peau sauvage, je me suis dit, c'est ce genre de cinéma-là que je veux faire. Quelque chose d'un peu décalé, qui parle d'identité, justement. Puis j'ai comme développé là-dessus. Mais pour moi, La peau sauvage, c'est vraiment un tournant, je pense, dans la façon dont je réfléchis les histoires. Puis le cinéma d'Ariane Huissaz en général aussi.
Oui, je suis assez d'accord. Je
vraiment intéressant. Ouais, vraiment.
C'est pas pour cool. Vous.
Mais je vais aller voir. Ouais. Ben, spontanément, il y en a qui me viennent, je crois, qui ont fait parler de beaucoup, mais moi, en tout cas, j'avais été très inspirée quand j'ai vu Brotherhood de Myriam Joubert.
Oui.
Ah, oui.
Mais oui.
Je trouvais qu'il y avait une poésie dans ces images, comme un regard qui m'interpellait beaucoup. Puis, sinon, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Moi, quelqu'un avec qui que j'ai croisé dans mes études, Carole Nguyen, No Crying at the Dinner Table.
Incroyable film.
J'ai trouvé magnifique, super émotif, plus dans le documentaire un peu aussi. Puis... ouais, il y a Fauve aussi.
Ça a marqué quand même.
Ouais, comme ton film, un peu, que j'ai envie de sauter parce que ça fait trop mal.
Il est
mais
dur,
c'est,
ouais.
C'est un compliment.
Parce mais ça aussi, Fauve, c'est... En tout cas, pour moi, c'est ça fait partie des top inspirations aussi. Là. Quel bon film.
Clairement. Jérémy Comte, il a bien fait avec ça.
Ben, tu sais, moi, on parlait de simplicité tantôt. C'est drôle, moi, j'ai comme le plus le goût de parler de films qui sont des comédies parce que c'est pas facile, mais moi... Petit frère. Je prêche pour ma parole parce que c'est le même scénariste qui a travaillé avec moi, mais c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné. Puis je me souviens, je l'ai écouté, moi. Comme je disais, j'étais pas très familier, moi, avec le format avant de faire Sikitu. Puis on était en pleine écriture, puis eux, ils venaient d'avoir comme un bon succès avec ce film-là. Oui. Puis ils m'avaient fait écouter. J'ai fait comme, mon Dieu. Puis moi, on est en train d'écrire Sikitu. Puis je me disais, mais pourquoi on fait si compliqué, man? On pourrait aller sur le bord d'une rue avec 2 bons acteurs puis un bon texte, puis on aurait comme quelque chose d'aussi fort. Ouais. Mais c'est comme. Mais bref, mais ça m'avait marqué. Mais moi, récemment, j'ai vu la trilogie des Têtards d'un réalisateur dont j'oublie le nom en Abitibi. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un film dont la première est en Abitibi. Je m'en veux d'oublier le nom. C'est un film drôle avec une esthétique hyper forte, puis une chute finale qui m'impressionne beaucoup. Puis, tu sais, là, vous avez cité des films qui sont un peu plus dans l'ambiance. Est-ce que, justement, je vous dirais que c'est des fins qui sont... Ben, j'ai pas vu celui que tu as cité, mais quand on parle de Fauve, tu sais, la fin est très mystérieuse. On sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui s'est passé, en fait. On sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, je suis très impressionné par les films qui ont une fin. Les films qui réussissent à closer ça.
Ouais.
Parce que je me dis, moi, quand j'ai une idée de fin ouverte, je me suis toujours... Puis là, c'est vraiment pas une attaque à personne. Mais je me dis toujours, est-ce que c'est paresseux? Est-ce que c'est un échappatoire de dire, oh, on va finir ça vaporeux, puis le public va déterminer comment ça finit? mais je pense que j'ai cette impression-là parce que les fins m'impressionnent.
Ouais.
Quand t'arrives à closer ton truc, Puis c'est pas convenu, puis tu tombes en bas de ta chaise encore plus que dans tout le reste du film. Ça me happe.
Ah oui, je comprends tellement. Mais puis on le dit tellement à quel point en court-métrage, c'est important aussi la fin, peu importe qu'elle soit mystérieuse ou qu'elle soit toute bien attachée. Il y a quelque chose qui te reste là, vraiment fort en court-métrage. Fait que, ben, ça donne des listes aux gens. Si vous avez fait des petits court-métrages, allez découvrir ça. Parce qu'on on le dira jamais assez à quel point on aime le court-métrage à plein écran. Puis ben, merci infiniment d'être venu jaser avec nous de cet échange magnifique. Il y a plein de choses qui sont sorties, des rires, des anecdotes. Je pense que les gens vont apprécier. Puis on rappelle, si c'est pas déjà fait, j'espère que c'est déjà fait là, avec toutes les conversations qu'on a eues, mais si c'est pas déjà fait, vous pouvez attraper les films. Tu sais, c'est 24 heures, 24 janvier. Donc, allez voir les films dont on a jasé aujourd'hui, puis suivez le reste du festival, bien sûr. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Merci. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alliés des artistes, moteurs de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la Culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.